Une production originale H2O Web Media.
Donc, Annie, dans ta quête de témoins, de contacts pour aller chercher d'autres informations que tu poursuis, tu as essayé de rentrer en communication avec la gardienne qui était là avec les enfants le soir du meurtre.
Oui, c'est ça. Dans le fond, on avait le nom avec l'allopolice, que je nommerai pas, là. C'est une personne mineure.
OK.
Et même à ça, on sait pas comment les gens réagissent aujourd'hui par rapport à ces souvenirs-là aussi. Il faut toujours faire attention de s'assurer que ça les bouscule pas trop. J'ai essayé de la trouver, mais je ne l'ai pas trouvée. Mais j'ai trouvé sa sœur grâce à la généalogie, mais je m'assure, dans le fond, que je m'adresse à la bonne personne.
OK.
Donc, j'ai interpellé par réseaux sociaux. Elle a accepté de me parler au téléphone. Donc, j'ai appelé à cette île. Elle a accepté de me jaser un peu, de m'expliquer là, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence. Que c'est pas quelque chose qu'elle parle souvent avec sa sœur,
non.
Là, parce qu'elle, ça l'avait beaucoup. Elle avait 14 ans hein, quand c'est arrivé. Selon sa sœur, c'était vraiment la première fois qu'elle allait garder là.
Okay.
On se rappelle que Nora faisait garder ses garçons pour la toute première fois aussi là, lors de cet événement-là.
Oui. Okay.
C'était pas commun déjà. Là. Ce que la sœur de la gardienne m'explique, c'est que ça a été pour elle un événement vraiment traumatisant. Qu'elle a demandé à partir, mais que Marcel aurait refusé sur le coup. Non, tu vas devoir rester parce que les enfants sont couchés puis il faut que je m'en aille. Ou en tout cas, tu sais,
okay.
Une espèce de chaos là, qui est arrivé là, avec les vêtements ensanglantés.
Parce que c'est ça, il faut se rappeler qu'il est arrivé à la maison, les vêtements ensanglantés, en grosse panique. Puis là, comme tu viens de dire, il a exigé qu'elle reste à la maison pendant que lui allait à l'hôpital.
Exactement. C'est ce que j'avais comme information, okay. Autant soit dans les articles de journaux que de la sœur de la gardienne. Finalement, ben, elle est partie, elle s'est comme sauvée. Là. Elle est partie de son propre chef. Et là, la mère de la gardienne aurait téléphoné parce que là, la gardienne étant traumatisée, la mère aurait...
Elle était retournée à la maison, finalement.
Elle est retournée chez okay. elle parce qu'elle restait très proche.
OK.
Et là, finalement, la mère de ces filles-là a appelé pour savoir qu'est-ce qui se passe. Puis là, Marcel a été plus ou moins collaborant. Là, c'est une zone floue un peu. Donc, c'est ça qui s'est passé.
Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'il a dit à la mère de la gardienne? Est-ce que...
J'imagine qu'on va le savoir plus tard.
Okay.
Là, parce
à
que
cette
reste...
étape-ci, on le savait pas encore.
Non, c'est okay. ça. On le savait pas encore exactement. Là, la gardienne était adolescente, sa sœur un peu plus vieille. Donc, c'est sûr que les souvenirs sont pas intacts.
Mm-hmm.
Elle hésitait aussi à m'en dire beaucoup parce que, bon, elle était pas certaine si sa sœur... C'était un petit peu à brûle pour point
ouais,
là, qu'on se parlait. T'sais. Ce que j'ai trouvé le plus saisissant, mais c'est aussi une information que je trouvais importante dans le détail, c'est qu'elle expliquait qu'elle avait 14 ans quand c'est arrivé. Sa sœur, mais quand Marcel est sorti de détention, elle n'était même pas encore majeure, tellement qu'il n'a pas fait longtemps de détention. C'est là okay. qu'on voit que c'est vrai. C'est ni plus ni moins.
Mm-hmm.
On a un témoignage supplémentaire qui corrobore avec ça, tellement que ça lui a fait peur. Donc, elle est partie, sont déménagées plus loin.
Toute la famille?
Je pense que c'était la plus jeune de la famille,
okay.
cette jeune fille-là. Donc, la mère et la jeune fille, la jeune gardienne sont déménagées parce qu'elle vivait dans la peur de revoir Marcel Lambert.
Merci hein, d'avoir accepté de discuter avec nous, de prendre du temps. Je sais que c'est pas toujours évident, donc merci à toi. J'aimerais que tu me partages ce que tu te souviens de cette soirée-là, parce que toi, tu es la sœur de la gardienne là, qui, à l'époque, était présente avec les enfants chez la famille Lambert. Donc, qu'est-ce que tu te souviens de cette soirée-là?
Ben écoute, je peux pas dire que je m'en rappelle beaucoup. C'est sûr que c'est un événement qui a marqué la famille. Ma sœur a été appelée effectivement pour aller garder. C'était la première fois qu'elle était contactée par ce monsieur. Ben, c'était pas monsieur, mais d'ailleurs, c'était madame qui avait appelé pour la gardienne. Probablement référée par des voisins, parce que mes sœurs gardaient beaucoup dans le temps. Elle est partie garder, puis tout allait bien. On n'a pas entendu parler de rien avant qu'elle arrive à la maison en disant que le monsieur était plein de sang. Ne sachant pas, ma mère parlait seulement qu'anglais dans le temps, fait qu'elle pouvait pas aller pour communiquer avec le monsieur ou quoi que ce soit. sauf que le téléphone a sonné peut-être 5 minutes après que je sois rentrée. Et c'était monsieur qui demandait que ma soeur retourne garder parce qu'il fallait qu'elle aille à l'hôpital voir sa femme. Donc, étant donné que ma mère ne comprenait pas vraiment la situation, ne savait pas ce qui se passait, elle a décliné, elle a dit non que ma soeur y retournerait pas. Ça a comme fait clos-là. C'est le lendemain qu'on apprenait là, vraiment ce qui s'était passé dans la soirée avec
tout
ce que vous savez finalement. Là.
Puis est-ce que tu te souviens quand ta soeur est revenue, dans quel état elle était, puis un peu qu'est-ce qu'elle t'a raconté?
Bien, c'est sûr qu'elle était épeurée, mais elle ne savait pas. Elle était jeune à ce moment-là. Je pense qu'elle avait 12 ou 13 ans. Là, ça fait que pour elle, ben, il y a peut-être eu un accident. Elle ne savait pas trop ce qui s'était passé. Elle n'était quand même pas épeurée quand elle est arrivée à la maison. Là. C'était ça, un peu comme un accident ou quelque chose comme ça. Mais non, elle n'était pas au courant de ce qui s'était vraiment passé.
Puis comment vous l'avez appris le lendemain, l'événement?
C'est sûr que les policiers sont arrivés chez nous pour questionner la petite. Puis c'est là que ça s'est déroulé, là, qu'on a commencé à comprendre. Ouais, c'était un peu plus grand que ce qu'on pensait.
Okay.
Et ça impliquait la petite, qui n'était pas toujours évident non plus, parce que là, elle a commencé à avoir peur. Elle ne peut pas parler aux policiers parce que j'ai peur que si le monsieur, il sait que j'ai parlé, qu'il va vouloir me tuer moi aussi. Puis c'est toutes des choses d'enfant. On sait qu'à 13 ans, on peut s'imaginer plein de choses.
Mm-hmm.
C'est à partir de là que ça a commencé à changer dans la maison, l'atmosphère, et que la crainte a commencé à s'installer. Ouais.
Qu'est-ce que ça l'a amené justement comme nouvelle réalité dans votre famille?
Ma nouvelle réalité, quoi je te dirais, c'est la peur. C'est plus elle qui était concernée. On aurait dit que ici, nous autres, on est quand même ici chez nous. Les 5 ans, on réagissait comme pas, on ne réalisait pas. Mais elle avait beaucoup peur. Beaucoup, beaucoup peur là, que le monsieur Yandel, d'abord on parlait peut-être qu'il est en prison.
Okay.
Mais là, s'il sort, peut-être ils vont venir m'attaquer. Elle voulait plus aller à l'école à pied. Elle voulait plus sortir dehors. Elle avait vraiment peur parce que il restait pas loin. Là. On appelle ça Jordan Chambord chez nous.
Mm-hmm.
Et puis il restait vraiment pas loin de chez nous. C'est qu'elle avait vraiment peur. Ben, il y a eu l'affaire de la cour. Il a fallu qu'elle le passe en cour aussi.
Okay.
Maman avait besoin d'un traducteur.
OK. Parce que dans le fond, vous êtes, ta mère parle anglais, c'est ça?
Oui. Okay. Oui, maman parle pas le mec anglais.
Aller à la cour pour témoigner finalement.
Oui. Elle était demandée de témoigner.
OK. On sait que Marcel Lambert n'a pas été très, très longtemps en prison. Hein? Ça, est-ce que ça l'a affecté
non,
votre famille?
Non, vraiment pas. Écoute, oui, ça l'a affecté de façon bien préméditée parce que avant qu'il sorte, d'ailleurs, ma mère avait déjà déménagé avec nous, on les appelait les captifs, les cap dormières.
OK.
Nous, on était un peu plus vieux, on avait resté à sortir. On avait chacun nos affaires, puis on travaillait. Mais maman elle a vraiment quitté, elle est retournée rester à Labrador-Sud avec les 4 petites parce que Julie arrivait plus là à dormir, à étudier. Ça l'avait affecté beaucoup, beaucoup. Là. Elle avait vraiment peur. Ça l'a causé le déménagement, ça l'a séparé la famille.
Comment vous avez réagi justement quand vous avez su qu'après 3 ans et demi à peine, M. Lambert était sorti de prison?
Écoute, on était épatés parce que pour nous autres, c'est plus quelqu'un, regarde, tu es en prison, là, on comprenait comme pas. Le fait qu'on n'était pas vraiment vieux et qu'on n'a pas vraiment suivi le dossier comme tel. Ma mère était partie à l'extérieur avec les enfants, fait qu'on avait comme plus peur pour Julie, puis nous autres, ben, nous connaissaient pas. Fait qu'on vivait ça comme si c'était, OK, on oublie ça, c'était notre passage dans notre vie, puis c'est terminé.
Mm-hmm.
Quand il est sorti, on l'a pas vu, on n'a jamais entendu parler.
Non, c'est ça. Est-ce que vous saviez que, à sa sortie de prison, il a récupéré ses 2 enfants?
Non, ça, ce bout-là, je le savais pas, par exemple. J'avais jamais entendu parler après. Là. Quand il est sorti de prison, nous, on l'a jamais vu, jamais entendu parler.
Okay.
Il n'y a pas eu rien non plus de discuté de ce qu'on a entendu en ville, là, dans les journaux ou quoi que ce soit. Là. Nous, on n'a pas vu.
C'est ça, j'allais te demander, c'est si vous aviez eu vent de tout ça par la suite. Est-ce que ça se parlait beaucoup, dans le fond, à l'époque, là, justement, dans le village? Tout ça, c'est-tu quelque chose qui se discutait de la part des citoyens?
Ben, au moment que ça s'est passé, oui, c'était la discussion du village, comme on dit.
Mm-hmm.
Après, dans le 3 ans plus tard, non, nous, on n'avait pas entendu parler. Est-ce que c'est parce que ça a donné qu'on n'était pas aux endroits où les gens discutaient?
Mm-hmm.
Peut-être. Mais non, nous, on n'a pas entendu parler après.
Puis toi, t'avais quel âge à l'époque? T'étais plus vieille, tu disais?
Écoute, j'avais peut-être 16 ans, moi, dans ce temps-là. Déjà, j'étais en appartement, je travaillais.
OK. Puis est-ce que toi, tu connaissais ce bar-là, le Caïen? Où est-ce que ça s'est passé?
Oui. connaissais le bord, parce que c'était le bord de Templos, là, tout le monde le connaissait en ville, mais est-ce que je suis allée? Non.
OK.
Je
ne
trouvais pas l'ordre d'y aller de un et de deux. C'était peu recommandé dans le temps.
Ah oui, OK. Donc, c'était quel genre de bar, là? C'est ça, il y avait des gens un pas trop de bonne influence qui se tenaient là, je pense. Ça brassait pas mal.
C'est ça. C'est ça, exact.
Nous, en fait, Annie, tu sais, quand on a commencé à fouiller dans cette enquête-là, ce qui était nébuleux et spécial, ben c'est ça, c'est que M. Marcel Lambert a fait juste 3 ans et demi de prison et à sa sortie de prison, il a récupéré ses enfants. Toi, est-ce que tu te souviens quel avait été le verdict à ce moment-là quand il a été en prison?
Non, je m'en rappelais pas parce que j'étais pas à la cour. Moi, je suis jamais allé à la cour.
OK.
Honnêtement, là, on n'a pas resté jusque-là. Okay. Si je regarde aujourd'hui, je sais que c'était homicide involontaire au lieu de meurtre au deuxième degré. Là.
OK.
Dans le temps, si ma mémoire est fidèle, on parlait que c'est parce qu'il y avait de la boisson ou qu'il n'était pas en état normal. Là.
OK. Jusqu'à maintenant, est-ce qu'elle va bien? Est-ce que tu as l'impression que ça l'a affecté le reste de sa vie, si tu veux?
Non.
Non.
Aujourd'hui, elle va super bien. Écoute, on en parle. Pour elle, c'est une vague histoire. Est-ce qu'elle veut en parler? Non.
Mm-hmm.
Mais elle se rappelle. Le plus gros qu'elle se rappelle, c'est qu'elle avait vraiment peur. J'ai vu cet été, on en a parlé un peu, là. Elle dit, je m'en rappelle, mais tu sais, j'ai comme essayé de flusher ce bout-là. Là. Je me rappelle d'avoir beaucoup, beaucoup peur du monsieur.
OK. Mais là, elle a passé à d'autres choses.
Et simplement. Oui, mais là, c'est ça, puis je lui ai quand même dit, regarde, t'as plus besoin d'avoir peur, le monsieur est décédé, c'est que
exactement.
J'ai oublié cette partie-là. Là.
Exactement.
Inconsciemment, je pense que ça l'a soulagé, là.
Sûrement, parce que tu sais, même en tant qu'adulte, elle a vécu comme enfant, on garde ça, tu sais. Quand on est adulte, on réfléchit comme un adulte, on vit les choses comme des adultes, mais quand tu le vis comme enfant, veux pas, il y a comme quelque chose qui reste, hein. Donc,
ça
se peut très bien que ça l'ait soulagé. Ben merci beaucoup d'avoir discuté avec moi. J'ai trouvé ça très intéressant d'avoir un peu l'autre côté, là, voir un peu comment ta famille a vécu ça, d'avoir cette version-là. Je te remercie.
Ben c'est moi qui te remercie d'avoir communiqué et je suis vraiment contente d'avoir pu participer. Si ça peut répondre à des questions à son garçon. Écoute, si jamais il veut rencontrer un jour, ben on pourra peut-être regarder ça.
Ah, ça serait vraiment apprécié. Merci beaucoup.
Finalement, Marcel Lambert n'est pas revenu dans le coin de cette île de toute façon. Il est allé s'installer à Charlebourg, à Québec.
OK.
Ce qui m'intéresse dans cette information-là, c'est que ça veut dire qu'elle n'était peut-être pas cachée, l'information qu'il soit sorti de prison. Elle, la sœur de la gardienne, ne se rappelle pas de quelle façon qu'ils ont su ça. C'est-tu la police qu'ils avaient averti par prévention pour leur dire, écoutez, il va ressortir? C'est-tu les journaux qui en ont parlé? J'ai beau éplucher l'avenir de cette île, j'ai beau éplucher ben, des choses, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que c'était su. Donc, si c'était su, c'était pas un secret de polichinelle non plus que Marcel sortait de détention en 1981.
Okay.
Donc, à partir de là, on avait ça de plus aussi comme information. Okay.
Ce qui est intéressant aussi, Annie, c'est que Michel, à travers sa demande d'aide... lui aussi fait des démarches. Lui aussi, il a essayé de contacter des gens, dont une de ses tantes, avec qui tu as réussi à parler.
Michel, dans le fond, pour lui, c'est pas évident là, de parler à des gens, les interpeller directement au téléphone parce qu'ils sont pas nécessairement sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Il a rejoint une sœur de Nora qui lui a parlé un petit peu aussi là, de ces événements-là. Et plus récemment, il a parlé à une vieille tante, je crois que c'est la tante de Nora, si je me trompe pas. Donc, c'est tante Vera, Véronique de son prénom. Et avec Michel, ça a été émotif. Ça a été émotif. Là. Il était vraiment content. Ça a été un coup à donner parce que ça stressait un peu d'appeler une madame. C'est une madame d'un certain âge, donc tu veux pas non plus bousculer rien.
Okay.
Puis ça faisait longtemps. Il était content, puis c'était émotif un peu comme téléphone. Ça y a vraiment donné la source sûre que Marcel était vraiment quelqu'un de violent, puis qu'il était un conjoint, qui était dans le fond, que Nora était sous son joug complètement.
Okay. Qu'est-ce qu'elle lui a dit, en fait?
En fait, c'est que dans le fond, tante Vera aurait été une des dernières personnes de la famille à avoir vu Nora, qui dans le fond... a été séjourné chez eux avec ses deux garçons peu de temps avant le meurtre. Là, elle ne se rappelle pas exactement quand. puis elle était pratiquement méconnaissable du visage, tellement que son visage était bouffi, était battu, ni plus ni moins battu. On se rappelle aussi que dans l'enquête du coroner qui avait été décrit dans le Halo Police, Marcel disait que sa femme était fragile, qu'à la moindre petite gifle, devait aller à l'hôpital. C'est pas facile s'occuper d'une femme nerveuse comme ça, mais bon, c'est le Halo Police aussi là, qui relate ces faits-là. On n'a pas de papier légaux de ça, mais c'est ce qu'il aurait dit à l'enquête du coroner devant le jury, okay. Tout ça. Donc, on avait déjà un indice, mais en même temps, moi, ça me donnait l'impression que c'était une exubérance un peu théâtrale pour un problème de santé mentale, qui okay. fait qu'il y aurait eu une dissociation carrément quand c'est arrivé. Donc, Tante Vera a accepté de nous parler de ici à Havre-Saint-Pierre. Elle réside à Havre-Saint-Pierre, fait que c'est quand même, c'est pas évident parce que là, c'est loin. C'est une madame d'un certain âge aussi, qui est toute là, par exemple, là, super, super vive d'esprit, tout ça, qui se rappelle des choses. Ça me permet de pouvoir y parler. Puis je pense qu'elle était contente aussi de participer parce que moi, j'avais eu le hockey, là, elle avait donné le hockey à Michel, qu'elle pouvait participer, puis qu'elle voulait nous donner son. Son témoignage d'une des dernières fois qu'elle a vu Nora.
Comment ça va?
Ça va bien, vous? Michel, il vous a parlé par rapport à mon téléphone que j'allais vous appeler à un moment donné. Est-ce que c'est bien ça?
Ça me fait plaisir.
Michel, il m'a déjà parlé de votre conversation que vous avez eue dernièrement.
Oui.
Il m'a expliqué que vous aviez beaucoup de choses à lui raconter là, par rapport aux dernières fois que vous avez vu Nora.
Prête à vous répondre ce que je sais.
Ce que Michel m'expliquait, c'est que vous étiez une des dernières personnes à avoir vu Nora Lavallée avant son décès, c'est bien ça?
Ah, moi, ma chérie, la dernière fois que j'ai vu sa mère, c'est ma cousine, là. Elle descendait chez nous à Saint-Augustin avec ses deux enfants. À Lavallée, c'est Marcel. Puis elle était pleine de bleu, les yeux et tout, j'ai la face toute bleue, elle était vraiment maganée, pauvre elle. Là, quand elle a descendu cette fois-là, sa maman, ma tante Annie, puis son frère Bernard, vous ne voulaient plus qu'elle retourne en ville. Puis lui, ben, il appelait, puis elle s'est retournée. Puis je pense que c'est un an ou deux après que c'est arrivé son décès. Je peux pas vous donner tellement de renseignements, ma chère. Je vis à Havre-Saint-Pierre, puis je la voyais pas souvent, elle restait à cette île. Mais elle restait aussi dans un logement de même que sa cousine, sa petite cousine. Estella me disait aussi qu'elle était très, très maltraitée.
C'est très important ce que vous me dites parce que en fait, on n'avait pas beaucoup de détails sur la violence conjugale que Nora subissait.
Ben là, ce que je vous dis là, c'est la vérité. Mais je sais qu'ils sont allés à une veillée de dame de cœur, à la salle de dame de cœur à Sept-Îles, un spectacle où ce qu'ils faisaient de l'amour sur le théâtre, vraiment là. Quand il embarquait dans son auto, ça a l'air qu'il voulait qu'elle allait donc pour faire de l'amour. Ben, elle dit que non, elle dit, viens-t'en dans la chambre à coucher chez nous. C'est vrai, là. Mais après ça, c'est là qu'il a donné seize coups de couteau de prolard. Puis il l'a emmené à l'hôpital. Ben, elle a juste eu le temps de dire, finalement, il did it. Il l'a fait. Puis le docteur demande qui a répondu, my husband, mon mari.
Et ça, c'est le médecin qui vous avait dit que ses dernières paroles?
C'est sa dernière parole, pauvre elle. Oui, ma chère. Tellement qu'une bonne mère de famille, une bonne femme, elle était soumise à lui à 120%. Quand il travaillait de nuit, là, les enfants étaient jeunes, il ne voulait pas qu'elle descende dedans. Elle était dehors, il fallait qu'elle se promène dehors dans le foie avec ses deux enfants. Mais sa nièce était là, ma nièce, qui se trouve sa petite cousine, l'a fait... Le faisant rentrer en dedans, puis donner à manger à elle et ses deux enfants. Il était vraiment cruel, Marcel Lambert.
Il y avait beaucoup de pouvoir sur elle, violent avec elle.
Oui, elle a souffert beaucoup. Puis c'était, vous pouvez vous informer à n'importe qui, c'est une petite femme, une petite ange. Ben, vous voyez des femmes aujourd'hui, masquées en Dieu, vous voyez à la télévision, à Dr. Phil, puis tout se passe là. Ben, elle était dans ce cas-là. On va le comparer à ce cas-là exactement. Il contrôlait, il était vraiment, il a vraiment fait souffrir. Ce que je comprends pas, que la dernière fois qu'elle a passé par chez nous, là, elle a resté chez moi, qu'elle a pu retourner. Mais là, à ce stade, je comprends aujourd'hui. Je vois ça à la TV, puis je vois ma nièce qui est à l'hôpital. Moi, j'appelle ça des cerveaux lavés.
Oui.
Laver des cerveaux, puis des manipulateurs mental, les gars de mes mental et physiquement. J'ai jamais pu comprendre comment ce qu'elle a pu aimer son mari comme ça, avoir été traité de la sorte. C'est des gars de même avec deux personnalités. Avec d'autres mondes, c'est super fin, mais avec leurs époux, leur vraiment, vraiment, l'autre bord.
Deux visages, finalement.
Oui, ma belle. Oui, puis deux personnalités à 100%.
Est-ce que oui. Vous êtes au courant de sa sortie de prison à Marcel? Est-ce que vous saviez comment les enfants se portaient pendant ce temps-là pour Lucien et Michel?
Il était chez la grand-mère, je pense que oui, oui, Michel m'avait dit ça, puis Lucien aussi. C'est leur grand-mère, ils étaient restés chez leur grand-mère un bout, je pense, après ça, ils ont resté chez leur père. Mais ce Michel m'a dit l'autre jour, c'est quand il y avait ou quelque chose, il a trouvé quelque chose, mais sa grand-mère a dit si il était plus jeune, la lettre, là, s'il en parle, qu'elle va le mettre dehors, fait qu'il a pas, il a gardé ça comme secret. Il doit avoir souffert énormément, hein? Oui, ma chère. Vous êtes bien gentil de vous occuper de ça, vous. Ça vaut la peine, hein?
Ce qui est nébuleux, c'est parce que Marcel a fait juste 3 ans et demi de détention. On veut savoir pourquoi, parce que on n'est pas capable de trouver cette grande réponse-là.
C'est ça. Ah oui, je vous comprends, ma chère. Mais là, ce que je vous dis là, là, c'est la vérité, puis c'est tout ce que je sais, parce que je reste pas dans le même village qu'elle. Mais je peux vous dire, par exemple, que le dernier voyage qu'elle a fait à Saint-Augustin, moi, je demeure à Saint-Pierre. Puis je vous assure qu'elle est à pas belle à voir, la pauvre. Paris, bonne femme, si bonne mère de famille. Elle buvait pas, elle était consacrée à sa famille à 100%. Puis vaillante et, ouais. Puis ma pauvre tante Annie, elle l'a dit une pauvre fois, puis une autre. Elle disait toujours, Marcel va tuer Nora. Elle dit, vous direz un jour. Elle dit, moi, je le verrai peut-être pas. Elle m'a dit, vous autres, elle dit, vous allez penser à ma tante. Elle dit, c'est sûr qu'il va la tuer. Puis, ça est arrivé. Puis, ils n'ont pas voulu qu'elle se retourne quand elle a retourné cette fois-là, mais si elle a resté chez eux, mais bon. Moi, j'appelle ça addicté, comme tu es addicté à la boisson, addicté à un homme comme ça. Je ne comprends pas, j'ai 84 ans, comment une femme a pu rester avec un homme de même. Puis je vous remercie beaucoup, beaucoup pour travailler là-dessus. C'est une très bonne œuvre et un exemple pour les autres. Hein?
Ça me fait plaisir.
Donc, comme ça, Michel doit être content que vous faites ça.
Oui, vraiment content parce que ça l'aide à trouver quelques réponses quand même.
Ça fait pitié, les enfants de même, hein, qui ont dû pas connu leur mère. Des fois, quand c'est le destin, ouais. La maladie puis tout ça, tu peux pas rien faire. C'est triste encore. Ouais. Mais les morts comme ça, c'est encore beaucoup plus triste. Hein. Ça a bien sorti, Michel, oui.
Ouais.
Puis il y a deux enfants, puis ils sont assez fins.
Il en prend bien soin.
Oh, mon Dieu, je comprends.
Il a retenu ça de sa mère, hein?
Oui, ma belle. En tout cas, vous êtes bien gentils. Puis je vous remercie beaucoup, beaucoup. Puis je pense à vous, puis je vais prier pour vous. Vous remercie beaucoup, puis je pense à vous.
À partir de ce moment-là, là tu as réussi à parler avec différentes personnes, on a rencontré des gens en entrevue. Est-ce que tu avais d'autres filons? Est-ce que tu avais d'autres portes là, à aller vérifier?
Bon, c'est sûr que j'étais encore en attente, mettons, là, d'essayer de trouver d'autres témoins, entre guillemets, parce qu'on témoigne jusqu'à un certain niveau. Des fois, ça peut être juste des personnes spécialisées dans le domaine aussi, là, tu sais, pas nécessairement témoins de l'événement. Bon, c'est sûr que moi, ma plus grande frustration dans ce dossier-là, c'est que dans le fond, l'enquête du coroner au départ que j'ai demandé, qui m'a donné une seule feuille, qui est comme un verdict, un procès, comme un verdict de l'enquête du coroner qui tient criminellement responsable Marcel et qui donne les dernières, disons, les lignes les plus importantes du rapport d'autopsie.
On parle d'un gros résumé, là, vraiment.
Un petit résumé.
Ben, je veux dire,
C'est ça, très big picture, là, comme on dit, d'une seule page seulement, qui est écrit quand même à la fin. Qu'il y a voir autopsie annexée, voir témoignage du coroner annexé, mais que je ne l'ai pas. Là,
il n'y avait aucune annexe.
Et moi, je sais très bien pourquoi qu'il n'y a pas ça.
Ah oui, pourquoi? Parce
que quelqu'un, en l'occurrence moi, en mai 2018, qui a trouvé, en cherchant pour un ami, fils de victime, l'enquête du coroner de sa mère parce que lui m'avait fourni son rapport d'autopsie. Parce que souvent, dans les, quand on cherche un dossier du coroner aux archives, quand ça fait plus de 30 ans, il y a souvent, très souvent, c'est disons une dizaine de pages en moyenne. Okay. On va avoir un rapport d'autopsie, on va avoir un petit rapport d'événement de la police souvent,
ouais,
qui va être comme l'espèce d'appel le jour 9-1 avec l'heure, date, qui, quelque chose de, qui est supposé être public en fait, là, mais qu'on ne voit pas dans les enquêtes du coroner qu'on va demander à Coroner Québec plus récente, plus contemporaine. On ne verra pas ça. C'est juste dans ceux de plus de 30 ans. Puis on va avoir un petit, c'est ça, un petit procès verbal, un petit verdict, là, que ce soit résolu ou non, il y a souvent des petites surprises. Des fois, il y a des, disons, des déclarations statutaires, des fois de suspects. Il peut y avoir des détails qui, aujourd'hui, on peut, avec le 2.0, aller fouiller. Mais en général, c'est tout de nature publique.
OK.
Mais dans le cas du dossier que je parle, que je suis allée chercher en mai 2018, lui pensait qu'il y avait tout ça, mais dans le fond, tout ce qu'il y avait, c'était un rapport d'autopsie qui se rappelait même plus vraiment depuis quand qu'il l'avait, tellement que ça faisait longtemps qu'il l'avait, sa mère étant décédée en 1981. Mm-hmm. J'ai dit, ben, je vais aller voir aux archives de Vieux-Montréal pour aller cueillir le dossier de ta mère pour aller voir. Mais finalement, c'était une boîte et non un fichier comme on a d'habitude. Donc, c'était deux gros cahiers boudinés qui totalisait quelque chose comme 350 pages.
OK.
Sur le coup, moi qui est amateur encore, on se le rappelle, là, moi je me donne droit à l'erreur. Là, j'apprends parce que les familles doivent apprendre. Je ne vois pas pourquoi je ne peux pas moi non plus faire le même processus pour les aider à apprendre. Parce que moi non plus, je ne savais pas c'était quoi la différence entre une autopsie et un coroner et toutes ces choses-là à l'époque. Bien, il y a plus longtemps un peu. Donc, c'est ça. C'était, je pensais que c'était une super de belle grosse enquête du coroner. J'ai parlé à une dame de Bianchi une fois, puis elle est partie à rire parce que c'est vrai, je l'avoue, je pensais que c'était une super de belle grosse job de coroner.
Okay. Et finalement,
bien, pour me faire dire par mon ancien collègue de blog, Éric Veillette, que dans le fond, c'était ni plus ni moins le dossier de police.
OK.
Et là, ce qu'il me disait, qu'il est plus spécialisé, lui, dans les archives judiciaires, parce qu'il est dans ce domaine-là, c'est que, en fait, c'est que c'est une erreur et que cette erreur-là est plus ou moins grave, ça dépend comment qu'on le voit. C'est que dans le fond, quand un dossier comme ça devient public, il devient non recevable, il devient comme contaminé publiquement.
Okay.
Donc,
d'accord,
on peut plus se servir de ce qu'il y a dedans. Ça devient, il y a même une étampe publique des archives sur chaque feuille quand on le fait imprimer. Mais dans un cas où c'est ça, ça date de 1981, il y a des familles qui aimeraient mieux l'avoir que de ne pas l'avoir du tout, tu sais, que de laisser ça s'empoussiérer finalement. Tout dépendant de ce que les familles croient, ça dépend de chaque cas. Donc, c'est ça qui est arrivé. Ça a été médiatisé.
Donc tu avais trouvé finalement des documents qui n'étaient pas supposés se retrouver là. Ça a eu quand même une forte incidence puisque finalement, il y a eu un moratoire sur...
sur c'est ça.
Toutes les finalement, vous aviez plus accès à l'information.
Exactement. Dans le fond, ça m'a comme un peu tiré dans le pied, mais en même temps, ben, c'est à refaire. Je le referais pareil. J'aurais jamais caché au fils de la victime que c'est là.
Mm-hmm.
J'aurais pas pu. C'est malencontreusement, j'ai découvert ça. Il y en a qui vont peut-être se plaire à dire que c'est de ma faute, mais en même temps, c'est de la faute à qui? Ça aussi, c'est un autre apprentissage. C'était de la faute à qui?
Mm-hmm.
Là, c'était de la faute de la police, du service de police de Longueuil, qui a fait exprès d'aller le mettre là. Non, c'est pas ça. C'est de voir après ça, d'où viennent ces informations-là, comment c'est acheminé, comment c'est voyagé. Puis c'est là qu'on a vu, bon, d'ailleurs, BANQ n'avait aucune responsabilité parce que eux, leur travail, c'est d'archiver.
BANQ qui veut dire?
Les archives nationales. La bibliothèque, en fait, où ce qu'on va le chercher sur Vigée, une bibliothèque qui a un étage pour les affaires judiciaires.
Okay.
Donc, eux, c'est pas à eux de savoir qu'est-ce qu'il y a d'affaires là ou non. Eux, ils reçoivent du coroner, de la police, conjointement de d'autres institutions. Eux le classent, puis ça vient de finir.
Okay.
C'est pas quelque chose qui arrive souvent qu'un dossier complet comme ça se ramasse là. Je pense que c'était vraiment une erreur aléatoire, mais tu sais...
S'il a fallu que ça tombe sur toi.
Que ce soit moi ou un autre, le moratoire est à travers le Québec.
Oui, c'est
donc
ça.
Donc, on pouvait
combien
plus avoir
de temps
là,
ça a duré, ce moratoire-là?
Ça a duré jusqu'à tout récemment. Dans le fond, ça a été à partir de l'automne 2018, parce que dans le fond, c'est là que ça a été médiatisé.
OK.
Jusqu'à tout récemment, j'ai fait une demande, j'ai réécrit à BANQ Sept-Îles pour demander, j'ai dit... Tu sais, je sais qu'il y a un moratoire, là. Tu sais, moi, je m'en cache pas. Il est arrivé ça, je sais très bien parce que c'est un peu par ma faute. Bon, il y a eu ça. Donc, j'ai osé poser la question parce que j'ai eu un syndrome d'imposteur pendant un bon bout de temps, là, avec les archives. J'osais même plus y aller, là. J'avais peur d'être quasiment identifiée, là, parce que là, je me disais, oh mon Dieu, c'est gros, cette affaire-là, qu'est-ce que c'est ça?
Okay.
Puis là, finalement, il m'a répondu, vous avez maintenant accès au coroner de Dame Nora Lavallée. Donc, et là, j'étais... sans connaissance quasiment, là, de savoir que je pourrais avoir ça, parce que là, je venais de débloquer un 120 pages de témoignages, wow. Et pas n'importe lesquels. On a les témoignages de Marcel Lambert, de Jean-Guy Lambert, de la gardienne, de l'inspecteur de police, des infirmières qui ont accueilli à la fois Marcel et Nora à l'hôpital, et d'autres. Donc, c'est là-dessus que là, on part sur tout qu'un deuxième round là, dans l'enquête.